Réveille-toi, cher cœur, réveille-toi. Tu as bien assez dormi, réveille-toi. William Shakespeare, La Tempête, acte 1, scène 2. Et si notre âme a valu quelque chose, c'est qu'elle a brûlé plus ardemment que quelques autres. André Gide, Les nourritures terrestres. Introduction. Ma cabane en bois est située au cœur d'une vallée du Morvan entourée d'arbres frigorifiés. Juste une pièce avec un bureau et un lit, une cheminée, une petite cuisine et une douche. Une seule fenêtre donne sur une plaine où poussent des sapins encore jeunes. Elle sera mon refuge d'écriture. Je me mets au travail sur la petite table face à la fenêtre et me lance à moi-même. Allez, courage ! Je songe alors à tous ceux que je rencontre depuis 2 ans pour mener mon enquête sur le courage et l'ardeur. Tous m'élèvent en me confiant leur feu, leur espoir, leur lutte solitaire et leurs rêves intacts. Tous sacrifient leur bien-être au profit d'une dimension supérieure. Et ce sacrifice leur donne une énergie, une lumière, une force inouïe. Allez, courage ! C'est l'appel du cœur qui nous lève du lit dans les aubes gelées d'hiver. C'est notre âme qui nous redresse quand on perd le souffle. C'est notre feu qui nous réveille quand on perd la foi. C'est cette porte qui s'ouvre sur un vent fou dans une forêt perdue de décembre. Ce livre audio n'est pas un appel aux armes, mais un appel aux âmes. À cette étincelle qui nous remet en chemin pour ne pas passer sur terre comme une âme endormie. Première partie. L'élan. Chapitre 1. La force de l'âme. Qu'ai-je à perdre, bon sang ? On n'a jamais rien à perdre. Ah, voir plus grand, voir vaste, jouer plus gros, tout risquer. Jean-René Huguenin, Journal. Tous me lançaient « Bon courage !» quand je leur racontais que je partais vivre seule dans une cabane dans le Morvan. Je comptais justement y écrire mon livre à la fin du mois de décembre. Cette perspective ne semblait réjouir que moi, car je ne recevais que des « bon courage » pleins de compassion. Je m'étonnais de cette expression si souvent employée qu'elle remplace désormais nos « au revoir ». Mais pourquoi ? Pourquoi avons-nous sans cesse besoin de convoquer le courage pour la moindre activité ? Manquerions-nous d'enthousiasme ? Ou est-ce une injonction à mettre du cœur à l'ouvrage ? Car le courage, c'est l'ardeur qui vient du cœur. Nous ne devrions donc jamais dire bon courage. Il n'y a pas de mauvais courage. Je grimpe au crépuscule le long d'un chemin qui serpente entre les châtaigniers. Il m'amène à un champ de sapins minuscules comme des nourrissons endormis. La nuit tombe sur un ciel sans étoiles. Me revient alors ce vers d'Apollinaire écrit en calligramme pendant la Première Guerre mondiale. Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'ai raconté à une amie que dans le poème d'Apollinaire, ce vers était crié par un capitaine inconnu pour raviver le feu d'une armée en peine. Nous déjeunions ensemble à une terrasse de café et j'étais fascinée par un groupe d'adolescents sur un banc. Ils me faisaient justement penser à des soldats en déroute. Ils étaient en jogging, jeans troués, sweatshirt, voûtés sur leur téléphone sans se parler. Mais pourquoi ne s'embrassent-ils pas ? Pourquoi ne se révoltent-ils pas contre l'abrutissement dans lequel on les élève ? Pourquoi masquent-ils leur beauté dans ces habits informes ? Pourquoi perdre ainsi la tenue, l'élégance ? J'ai fini ce jour-là ma diatribe avec cette question. Où est passé le courage ? Mon ami m'a rétorqué. Je ne vois pas le rapport entre le téléphone, le jogging et le courage. Ah, mais il est évident pourtant. Être élégant est un courage, une attention envers soi et le monde qui ne coule pas de source tous les jours. Chercher la beauté et non le confort demande du courage. Se parler, s'emballer, s'exclamer, s'enflammer, rire, pleurer est la preuve d'une force de vie intacte qui aspire à se révéler. Quel malaise les jeunes cherchent-ils à noyer dans les écrans ? Quel manque d'être, d'ardeur. On me rétorque que ce n'est pas leur faute. Ces confinements auraient brisé leur élan. Mais parce qu'on le veut bien. Donnez-leur des rêves, des idéaux, des combats à mener et il est certain qu'ils jetteront leur jogging, leur téléphone. Ça, ce n'est pas sûr. Se redresseront et partiront en quête d'une étoile qu'ils seront peut-être les seuls à connaître, à aimer. Donnez-leur le goût du souffle, de l'élan, de l'enthousiasme. élevez-les vraiment vers ces sommets en eux qui les espèrent. Oui, il est temps de rallumer les étoiles. Ce n'est pas une figure poétique, c'est une réalité. Car s'il n'y a plus d'étoiles à chérir, il ne nous reste plus qu'à allumer nos écrans. Ils se seraient bien moqués de moi, ces adolescents, si j'étais venue les voir en leur demandant d'éteindre leur téléphone pour suivre une étoile. Et pourtant. Pourtant, lorsque je suis allée dans la classe de mon fils aîné en CE2 parler de mes expéditions dans le désert, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est qu'il est essentiel d'avoir de grands rêves et de tout faire pour les réaliser. À la fin de mon intervention, chaque enfant est venu me voir pour me raconter ses rêves qui lui donnaient du courage. Il me parlait avec la conviction de ceux qui sentent que tout est possible. La voie la plus courageuse n'est jamais la plus facile. Elle ne flatte pas nos instincts primitifs, notre paresse, nos petits arrangements avec la réalité. Elle nous veut grands, forts, pleins d'audace. Une âme debout. Nous sommes voûtés sur notre siège, les yeux tendus vers notre téléphone. Or, viser le ciel nous redresse. Si nous sommes sans cesse épuisés dans ces joggings qui ne servent même plus à courir, c'est parce que nous n'avons pas de rêve assez fort. La mort de l'idéal, c'est le succès des pantoufles. Bien sûr, la vie ne cesse d'écorcher nos rêves et nos amours. Et si c'était pour les rendre plus forts encore, pour qu'ils soient la seule réponse possible? Je redescends vers ma cabane dans la nuit sous la pluie et vois de loin l'unique fenêtre éclairée par une lampe comme un dieu qui veille. Je songe alors à la fin du calligramme d'Apollinaire. Et depuis ce soir-là, j'allume aussi l'un après l'autre tous les astres intérieurs que l'on avait éteints. Je me demande si l'ermite sœur Catherine que j'ai rencontrée avant de partir laisse elle aussi une lumière allumée dans son refuge quand elle le quitte pour aller prier dans sa chapelle. Elle m'avait confié qu'au tout début dans son ermitage, elle vivait dans une grande pauvreté. Elle était sous le coup de l'ardeur, donc ça ne la dérangeait pas. Mais un soir, elle n'avait même pas eu de quoi s'éclairer pour la prière dans la chapelle. C'était vraiment sinistre. Elle en avait pleuré. Mais alors, elle avait découvert 3 lucioles près du tabernacle. Elle avait conclu son histoire en murmurant « Par la pauvreté, j'ai pu percevoir la main de Dieu ». L'ermitage de sœur Catherine se trouve sur une crête de montagne battue par les vents dans les Alpes du Sud. Il n'est accessible qu'à pied après 1h30 de marche sur un grand dénivelé avec toutes ses provisions sur le dos. L'ermitage n'a ni eau ni électricité. Il est constitué d'une petite chapelle, d'un cabanon et d'une grotte à laquelle on accède par une étroite corniche. Cela fait 27 ans qu'elle vit là. Elle va chercher l'eau à un ruisseau qui s'assèche parfois. Souvent, le toit de sa cabane s'écroule. Ses membres, certains matins, sont tellement gelés qu'elle ignore comment elle va faire pour bouger. Dans « Récit d'une ermite de montagne » où elle partage sa vie de solitude, elle écrit « Ici, je suis seule au monde, devant l'inconnu de chaque instant. Plus que l'inconnu, l'aventure de chaque instant. » Cette insécurité constante, elle en fait une force vitale, car elle va chercher plus profondément en elle les ressources pour continuer, inventer, persévérer et non s'acharner. S'acharner, c'est recommencer sans cesse de la même manière. Persévérer, c'est recommencer autrement. Sa foi grandit dans la solitude et l'incertitude. Elle a cessé d'apposer à sa vie des normes sur ce qu'elle devrait être. Car elle sait que la seule manière de survivre dans son ermitage, c'est de prendre la vie telle qu'elle est. Pas de lamentation. Juste de l'invention, pas de repos, juste la paix. La vie de sœur Catherine n'est faite que de gestes simples. Ils sont la clé de sa survie physique et mentale. Dans l'élan qui la pousse à ranger chaque jour sa cabane, elle va puiser la force de tout reconstruire après une nuit d'orage. Quand je lui ai demandé s'il fallait du courage pour ne pas se lasser de cette vie monotone, elle m'a répondu « Je crois qu'il faut surtout parler de fidélité et de persévérance. Et pour cela, il convient de savoir approfondir et se renouveler. Savoir entretenir un certain feu intérieur pour ne pas se laisser endormir par l'ordinaire. C'est l'histoire de toutes les vies. Sans feu intérieur, les jours s'éteignent.